Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Rémi Sistiaga. La gourmandise ce matin est une expression citée par Hélène Giannichini dans son roman « Voir de ses propres yeux » et tirée du livre « Le travail des morts » de l'historien américain Thomas Laqueur. Il est relaté qu'Artémise, épouse de Mausole et reine du IVe siècle avant Jésus-Christ, fut si affectée à la mort de son mari qu'elle ingéra ses cendres mêlées à une boisson pour devenir son sépulcre vivant et animé. Notre apothicaire de l'âme est né à Batoumi, au bord de la mer Noire en République socialiste soviétique de Géorgie. Elle commence le piano à l'âge de 3 ans sous l'impulsion de sa mère, bienfaitrice qui pense que l'art et le travail préservent de la névrose. Ce sont les mots de notre invité. À 6 ans, elle donne son premier concert avec l'orchestre de chambre de l'école de musique de Tbilissi. C'est dans la capitale géorgienne que la future virtuose étudie la musique. En 2004, elle entre au conservatoire d'État. En 2006, elle part étudier 4 ans à Vienne grâce à une bourse. Je voulais faire une phrase avec la muse assignée à la musique, Euterpe, mais le prénom manque de grâce. Contrairement à notre apothicaire qui est depuis devenue une pianiste applaudie sur les scènes prestigieuses du monde entier. Soliste étincelante, elle a aussi la générosité des chambristes et collabore régulièrement avec d'autres musiciens. Son caractère passionné et ses goûts éclectiques sont à l'origine d'une discographie singulière. Des interprétations de Liszt, Chopin, Schubert ou Rachmaninoff côtoient celles récentes de Philip Glass, Gainsbourg ou encore Ennio Morricone. Et là, je fais référence à sa dernière sortie, l'album Labyrinthe, paru chez Sony. Bonjour Katia Bougnatichvili.
Bonjour Eva, ravie d'être avec vous.
Moi aussi. La première question dans cette émission est toujours la même. Quel est votre rapport à la mélancolie ?
Je pense comme de tout le monde, dans le sens que mélancolie est là et c'est infini. On peut s'enfuir des fois, mais ce n'est pas éternellement. C'est-à-dire que mélancolie reste éternelle. Notre état d'âme, ça peut changer, mais on peut pas vraiment s'enfuir à part que par les moments. Donc, je pense on s'adapte, on s'approfondit dans cette mélancolie et on peut trouver des choses même qui peuvent nous plaire dans cette mélancolie. En tout cas, c'est la partie de ma vie, comme celle de votre et d'autres personnes.
Katia Bougnatichvili, vous n'avez pas l'air effrayée par cette mélancolie que vous décrivez. Elle a l'air assez douce dans votre bouche.
Ça dépend. Ça peut être assez sombre aussi. Ça peut faire peur aussi parce que je pense que la raison pourquoi la mélancolie existe dans notre cerveau, c'est parce que on a conscience de la faim. Donc ça peut être lié avec la peur aussi, mais on peut adoucir. On peut adoucir. Ça dépend. Je pense que nous sommes tous assez éclectiques quand vous avez décrit le répertoire. On peut avoir différents regards dans différentes lumières et différentes ombres. On peut voir différemment la mélancolie, mais ça peut être très varié, très éclectique.
Et c'est vrai que l'idée de finitude que vous évoquez sera dans plusieurs de vos remèdes, comme on va le voir, Katia Bougnatichvili. Alors, chers auditeurs, avant de vous annoncer le sommaire, je précise que pour cause de maladie, j'anime cette émission à distance de chez moi et que notre invitée se trouve à la maison de la radio. Je la vois sur un petit écran. Je regrette de ne pas être plus proche et j'espère que le résultat ne sera pas trop étrange pour vos oreilles. Mais il est, dans cette époque si décourageante, malgré tout, l'heure de se réjouir. Katia Bougnatichvili, vous vous apprêtez à convoquer Marcel Proust, Le Sentiment Amoureux, Sergio Leone, Kieslowski, Aznavour, Barbara, juste après avoir écouté votre interprétation du troisième mouvement de la sonate pour piano numéro 21 en en si bémol majeur des 960 de Schubert, extrait de votre album paru en 2019 et sobrement intitulé Schubert. J'aurais pu prendre un extrait de votre dernier album Labyrinthe, mais Schubert est inévitable quand on parle de mélancolie.
Proust aussi.
Mais on va commencer tout de suite d'ailleurs par Proust à rentrer dans du lourd. Et le morceau choisi est plutôt enlevé. Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de la pianiste Katia Bougnati-Juilly. Thank you. L'adagio du quatuor à cordes numéro 12 en mi bémol de Beethoven par le Quartetto Italiano. Cet air était l'un de ceux qu'affectionnait Marcel Proust, l'auteur de votre sérum littéraire, Katia Bugnati-Jvili, puisque vous avez choisi le premier volume d'À la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, paru en 1917. Ma première question, j'aurais aimé savoir si vous l'avez d'abord lu en français ou en géorgien, puisque je sais, Katia Bugnati-Jvili, que vous apprenez le français depuis l'âge de 13 ans.
Oui, même plus tard, je crois 14, ou en tout cas je ne me souviens pas la date précise, mais en tout cas assez tard. Assez tard, ou peut-être assez tôt pour certains. Non, on n'avait pas la traduction de Proust en géorgien. Et on a eu seulement récemment, il y a quelques années. Donc pendant ces temps, les géorgiens, donc, ne pouvaient pas découvrir Proust, à part s'ils n'allaient pas lire en russe la traduction. Donc pour moi, comme j'ai lu beaucoup de livres en géorgien quand j'étais enfant, Proust n'était pas parmi eux. Par contre, j'ai lu plus tard, plutôt récemment, en français, et j'ai acheté aussi le livre qui est la traduction de Proust que j'avais à côté de moi. Si jamais je voulais traduire, ça me permettait de, pour le français, des fois que si je ne comprenais pas quelque chose. Mais bien évidemment, lire dans l'original l'auteur la première fois, c'est vraiment un grand bonheur parce que d'habitude, j'ai découvert les auteurs français à travers la langue géorgienne, alors que Proust, c'était direct en français, même si c'est très compliqué comme langue, surtout pour une étrangère. Bon, maintenant française, mais quand même, ma langue maternelle, c'est géorgien, c'est pas facile.
Depuis 2017, vous avez la nationalité française.
Tout à fait, parce qu'on peut se perdre dans ces phrases qui sont un petit peu comme les moindres, mais qui est magnifique, parce que ça, ce n'est pas des phrases compliquées, c'est la pensée qui est comme le labyrinthe, je trouve, un petit peu. Mais oui. En même temps très doux, ce n'est pas quelque chose de, qui est dérangeant dans sa façon d'être complexe.
Katia Bugnati-Jvili, il paraît que votre mère allait jusqu'à payer l'épicier à crédit en Géorgie pour que votre sœur et vous apprennent justement les langues étrangères, dont le français. La culture était très très importante à la maison.
Tout à fait, oui. Ma mère, aujourd'hui c'est la même chose, elle croyait en l'avenir, elle nous disait toujours que si vous travaillez, il y aura toujours le résultat. Elle n'avait pas peur de lendemain, même s'il vivait chaque jour, c'est-à-dire il pouvait ne pas avoir l'argent pour demain, et le matin ou la nuit, elle pensait qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour les enfants, quand le matin va commencer, et comment se débrouiller. Donc sa force de caractère la permettait de se battre chaque jour, mais en même temps avoir la confiance de demain.
C'est pour ça que comme choix de francophile, Katia Bugnati-Jvili, Proust, c'est quand même épatant. Et puis, vous avez choisi La recherche, qui est la sublimation du chagrin par le travail de la pensée, justement, cette pensée que vous évoquiez. Et Proust, on peut quand même dire que c'est un mélancolique. Il était surnommé par certains de ses amis le Saturnien. Et il est question du temps perdu. Le temps perdu, c'est à la fois le temps qu'on a perdu pour quelque chose, pour un être, et le temps qu'on perd en s'en souvenant, en fait. Est-ce que vous, vous perdez beaucoup de temps ?
Moi, je suis en permanence à la recherche du temps perdu, dans le sens que je pense que l'essentiel, dans le sens de ressenti, on pouvait ressentir quand on n'était que l'enfant ou adolescent. Après, c'est juste essayer de se souvenir de ces sentiments ou de revoir certaines choses qui nous rappellent de ces sentiments ou de réessayer de ressentir ces choses-là. Donc, en permanence, recherche de quelque chose qui était dans le passé. Donc, pour cela, pour moi, Proust, c'est quelque chose qui est qui va dans l'essence de ce qui est existentiel, qui est lié avec la mélancolie et avec notre essence, tout simplement, des êtres humains.
Est-ce que vous êtes un être que vous qualifieriez de nostalgique, Katia Bugnati-Jvili?
Oui, tout à fait, oui. Dans tous les sens, dans le sens personnel, individuel, dans le sens que je veux retrouver dans mes pensées et ressentis d'enfance, mais aussi, en général, je pense que je vois plus de temps, plus d'espace dans la période précédente. Moi, je pense que l'Internet, c'est génial que ça existe, dans le sens qu'on a l'accès à beaucoup de choses. On a aussi l'accès à beaucoup de mensonges, beaucoup de publicités, des fois qui ne sont pas toujours très sincères. Mais on a aussi l'accès à la réalité. On a aussi l'accès à ce qui se passe vraiment dans le monde. Il faut avoir une lucidité pour choisir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais en tout cas, on a l'accès à tout. On peut choisir ce qui est essentiel pour nous. Mais il y a un côté négatif aussi à ça, bien évidemment positive, très importante, mais négative aussi dans le sens que on voit tout sur l'écran en fait. Je pense qu'on prend pas le temps, on se regarde pas, on regarde pas la vie différemment parce qu'on pense qu'on peut tout trouver sur l'écran, alors que c'est dans la nature, c'est dans les êtres humains, c'est dans le temps qu'on prend pour certaines choses, c'est dans la réalité qui se passe dans la vie, qui n'est pas forcément fixée sur l'écran, parce que nous sommes en train de fixer tout ce qu'on fait dans le quotidien. Après, je peux comprendre ça. C'est plus difficile pour moi. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce n'est pas ça. C'est juste pour
bien
mon
sûr,
caractère,
j'entends.
C'est plus difficile.
J'entends. Et vous prenez des pincettes pour évoquer justement ce ressenti. Mais ça tombe bien, Katia Bougnatichvili, puisque vous avez décidé de construire votre vie autour de l'art. Et si on revient à Proust, il y a un moment cette phrase dans La Recherche au sujet des impressions artistiques. Nous périrons, mais nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance. Et la mort avec elle a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être de moins probable. Comme si Proust signifiait que, à partir du moment où on a été ému par la beauté, alors ça valait la peine.
Oui, tout à fait. Et surtout que, quand il parle de la musique, on a l'impression que il parle d'un thème, d'une phrase de Vinteuil. Donc, on peut réfléchir qui pouvait être ce compositeur. Peut-être Franck, mais peut-être pas. Mais en tout cas, quand il parle de cette phrase où il voit beaucoup de souffrance qu'il ne ressent pas forcément, mais cette souffrance lui apporte, ça perce lui, mais sans que vraiment ça devienne sa souffrance à lui. Ça perce en lui, mais en même temps, c'est comme si c'était une caresse qui renforce encore plus son ressenti du bonheur. Donc, il peut voir certaines choses dans l'art, dans la musique surtout. Il parle beaucoup de la musique, beaucoup de la peinture aussi. Mais de la musique où il y a certaines émotions, certains ressentis très forts qu'il est à la recherche permanente parce qu'il a besoin de ses ressentis, même si ce n'est pas ses propres ressentis. Donc, il n'arrive pas à apprivoiser parce que ça ne lui appartient pas vraiment, puisque quand compositeur il a composé, ce n'était pas pour lui qu'il a composé personnellement. Mais justement, cette envie de posséder quelque chose, mais qui ne l'appartient pas, qui ne ressent pas lui-même, mais qu'il ressente cette ressentie de quelqu'un d'autre. Ces genres de parallèles sont très importants, hypersensibles chez Proust, et je pense que ça ouvre un univers incroyable pour les musiciens aussi, pour qu'on regarde la musique différemment.
Oui, parce que ça touche à l'absolu, ça touche à l'impalpable, à l'intangible, ce qu'est finalement la musique. Mmh. C'est évidemment l'un des textes où l'on trouve le plus de références musicales, la recherche. Mmh. Il y a Wagner qui est cité plus de 50 fois, Beethoven, Schumann, Debussy. Katia Bougnatichvili, est-ce que vous nous liriez un petit passage ?
Oui, je n'aime pas faire ça d'habitude, pour les autres, mais je le ferai pour vous.
Par philanthropie.
Non, en fait, c'est le deuxième paragraphe de le début, en fait. C'est là que j'ai ressenti, j'ai compris que je l'aime, j'aime Proust. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre les pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Alors pourquoi cette phrase ?
Oui, toute la nuit à souffrir sans remède. Je m'identifie comme beaucoup d'auditeurs, j'imagine.
Non, mais de toute façon, le matin, il viendra. Le matin vient toujours. Mais oui. Sa façon, sa hypersensibilité et compassion, alors que, en fait, il est quelque part dans une réflexion de quelqu'un qui réfléchit à des choses existentielles quand il est dans son lit et il essaye d'aller loin dans ses pensées, dans son cerveau, voyager vraiment, de se perdre dans le labyrinthe de son cerveau, aller dans vers son enfance, les meubles qui rappellent son enfance, mais il n'arrive pas à vraiment réaliser si c'est vraiment dans le passé qu'il est ou si c'est dans la réalité du présent, du moment. Et dans ces moments-là, il arrive quand même à faire d'une façon très proustienne, dans le sens d'aller faire les moindres et quelques tournures où ça nous amène complètement ailleurs. Il arrive à imaginer les gens qui souffrent. Et là, j'ai compris que je l'aime parce que nous savons tous, on peut tous mettre sur le coussin notre joue, contre les joues de coussin, et réfléchir de ce que nous souffrons, ou ce que nous pensons, ce qui est essentiel, ou en général penser de la philosophie ou de la vie. Mais quand on a cette capacité de aussi se rappeler que peut-être quelqu'un qui n'est pas nous en ce moment-là peut être dans cet état d'âme, là, je ressens l'amour direct pour cette générosité. C'est dans la deuxième paragraphe qui m'a bouleversée.
Et justement, Katia Bougnatichvili, Proust avait initialement intitulé la recherche « Les intermittences du cœur » et c'est excellent puisque c'est à cet organe que nous allons maintenant prêter attention.
Qu'est-ce qui nous fait chanter? Qu'est-ce qui nous fait danser? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? C'est l'amour. Qu'est-ce qui vient nous hanter, nous désorienter et nous déshydrater? C'est l'amour. Quand un homme ne dort plus, croyez-moi, on sait bien ce qu'il met en émoi. Quand une fille a perdu son sang-froid, pas besoin de chercher pourquoi, qu'est-ce qu'on aime commencer et puis recommencer et recommencer. C'est l'amour.
Oh, mademoiselle Renaud,
what do you want to know?
Lynn Renaud, c'est l'amour. Pour introduire l'idée qui vous réjouit, Katia Bougnatichvili, ce sont les premiers moments d'état d'âme amoureux. Et vous avez aussi choisi de nous parler de la recommandation de votre mère, sois toujours amoureuse. Alors évidemment, j'ai plusieurs questions à ce sujet. D'abord, les premiers moments d'état d'âme amoureux, j'imagine que vous faites référence au début de relation, c'est ça?
Tout à fait, oui. Ou après, même qu'est-ce pas qu'est-ce relation, ça peut lasse, être une oui. relation ou même pas.
Avec Marcel Proust par exemple, où c'est peut-être pas réciproque.
Non, c'est pas seulement à cause de réciprocité, c'est plus, ça peut être presque ne pas vouloir d'aller loin. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément quelque chose qui prend une forme. Des fois, ça reste juste l'état d'âme du début et je trouve ça magnifique aussi. Surtout quand on est très très jeune par exemple.
Oui.
Ça peut être l'amour d'adolescence, quand on Exaltant. Tombe amoureuse encore plus fortement qu'on peut tomber aujourd'hui, je pense. On n'est pas vieille, mais quand même.
Katia Bougnatichvili, l'amour est évidemment la plus grande source de joie, de transcendance, mais aussi de souffrance. Est-ce que vous avez peur de vous abîmer? Vous n'avez jamais tenté de vous en protéger?
S'abîmer, non. Souffrance, oui, je pense. Je ne sais pas, je ne planifie pas. C'est justement quand je tombe amoureuse, je ne pense pas vraiment à l'avenir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut apporter. Je pense avant, ça apporte plus de souffrance. Maintenant, je pense, comme j'arrive à analyser plus les choses qu'avant, pas parce que j'ai envie, mais parce que c'est automatique, peut-être ça peut être moins souffrant. Je ne sais pas, c'est difficile à dire.
Katia Bougnatichvili, vous avez une prédilection pour les compositeurs romantiques, Liszt, Chopin, Rachmaninov, Schubert. J'ai lu dans une interview que quand vous aviez été envoyée à Vienne à l'âge de 19 ans, vous avez dit à ce sujet « Là-bas, je gardais encore des séquelles de ma timidité enfantine, une nature hypersensible qui ne supportait pas le cynisme. » On dirait qu'il y a une sorte de pureté chez vous.
C'est possible, oui.
Oui, vous n'avez jamais de problème de désir, et là je ne suis pas impudique, je parle de désir dans la vie en général, pour les projets, pour l'élan vital. Le désir, ça s'entretient, le contraire c'est le découragement. Vous n'êtes jamais confronté à du découragement?
Surtout, j'ai jamais eu de rêve, si on parle du métier, de la carrière, même si la musique c'est plus que métier pour moi, j'ai jamais eu de rêve dans mon métier. C'est-à-dire, j'ai jamais rêvé de faire une carrière ou jouer dans cette salle ou jouer avec quelqu'un, un autre musicien, etc. Pour moi, les rêves, ça s'associait plus avec les livres ou l'imaginaire que moi-même j'avais dans ma tête. Ça n'a jamais été lié avec les fêtes concrètes. L'amour, oui, j'ai eu des rêves concernant l'amour parce que je pense que, comme l'amour, c'est quelque chose de très abstrait, comme la musique d'ailleurs. Ça nous permet de rêver. Mais par contre, les choses concrètes, non. Je n'ai jamais eu de rêve concret.
Mais vous êtes découragée parfois?
Par exemple, justement, parce que je n'ai pas eu de rêve concret, je ne serais pas découragée dans ces sens-là. Ça m'arrive d'être découragée dans la vie, d'ailleurs. Ça peut arriver souvent. mais ce n'est pas en liaison avec ce que je rêvais d'avoir et que je n'ai pas eu. C'est pas ça. C'est plus dans les relations avec les gens, en général. Ce n'est pas lié avec juste les relations amoureuses. J'ai dit en général, dans le métier, dans la vie. J'avais différents regards, différentes opinions, différentes imaginations et perceptions de la vie. Et je recevais des fois d'autres choses, qui étaient une leçon de vie peut-être. Mais ça, ça pourrait me décourager, oui. Mais après, c'est pas grave.
Dans un instant, nous parlerons Mafia, juste après un titre de la playlist France Inter, Love and Hate in a Different Time du trio californien Gabriels. Thank you.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Katia Bougnatichvili. Le dernier film de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique, film de gangster adapté du roman The Hoods de Harry Gray, qui nous emmène dans le New York de la fin de la Prohibition et couvre le début des années 1920 à la fin des années 1960. Katia Bougnatichvili, vous avez choisi la dernière scène, les quelques dernières minutes, mais pour comprendre ce passage, et je ne sais pas si on peut se permettre de le raconter, car je suis sûre que plusieurs auditeurs ne l'ont pas vu, il faudrait ébaucher l'intrigue, ce que je vous laisse faire.
Je pense que c'est pourquoi j'aime ces moments particulièrement, c'est que, bien évidemment, je vois beaucoup de choses à travers la musique. Et pourquoi j'ai enregistré Deborah's Theme, parce que je pense que c'est une des thèmes, le plus beau thème écrite pour l'histoire du cinéma.
C'est pour votre dernier album, Katia Bougnatichvili, Labyrinthe, et c'est un thème créé par Ennio Morricone.
Tout à fait. Et je pense que dans cette dernière scène de ce film, ce qui est raconté, c'est raconté à travers la musique. C'est-à-dire, il y a les trois thèmes que j'aime dans ces films, qui l'un après l'autre sonnent. Et en fait, il se passe pas grand-chose dans le scénario, mais c'est à travers la musique, comme des thèmes qui s'enchaînent, qu'on arrive à faire les parallèles avec ce qui s'est passé dans le film et de moments quand cette musique était utilisée. C'est-à-dire, la fin, ce n'est pas les personnages qui jouent seulement, à part Robert De Niro, qui est sublime et génial dans cette scène, mais c'est à travers la musique qu'on voit la fin de film. C'est la musique qui est dans le rôle principal à ce moment précis, je pense.
C'est assez juste. Katia Bougnatichvili, je ne peux m'empêcher de penser à dresser un parallèle, en fait, entre le choix de ce film, Il était une fois en Amérique, et La recherche du temps perdu de Proust. Et je ne fais pas ça pour crâner, bien qu'évidemment j'adore crâner, parce que le film est construit sur des flashbacks, des hallucinations sonores. Je pense à De Niro quand il est dans une fumerie d'opium. Oui. Il se souvient tant et si bien que ces 35 ans qu'on voit défiler mis en scène par Sergio Leone, ce sont des boucles de temps, et il y a quelque chose de hautement mélancolique et nostalgique. Il y a les occasions perdues, il y a le temps perdu, il y a les échecs. C'est très très proustien finalement.
Tout à fait, parce que le monde est vu à travers les yeux d'un adolescent. Et c'est ça qui est beau. Après, ce qui s'est passé plus tard, ce qui était laid à voir, qui n'était pas bon, ce qui était négatif, complexité de la vie et les mauvais choix qu'on fait dans la vie, et comment le chemin peut d'aller dans complètement différentes directions qu'on peut rêver, ça c'est différent. Mais c'est justement ça qui... on parle beaucoup du final de ces films, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'est ça a eu lieu, tout ça, ou c'était juste imagination? En fait, ça, on laisse au public qui vont regarder. Je pense que c'est pas un nouveau film, beaucoup de gens ont déjà vu. Mais l'essentiel, c'est que ces thèmes-là, ça représente l'amitié, ça représente l'amour d'un adolescent, où l'amour est pur, unique et infini. Et c'est ces yeux-là, en fait, c'est les yeux des enfants à travers la musique qu'on re-retrouve.
C'est vrai, il y a cette pureté dans l'amour que vous décrivez, Katia Bougnatichvili, et en même temps, il n'y a aucun angélisme dans ce film, il y a aussi une grande cruauté, et je pense notamment aux femmes dans ce film, qui sont toutes sublimes, mais qui sont représentées d'une façon assez particulière, puisqu'elles sont soit obsédées et idiotes, ou pures mais avides de réussite, comme Déborah justement, qui est incarnée par la sublime Elizabeth McGovern. Il y a plusieurs scènes de viol, c'est très très brutal le traitement des femmes dans ce film.
Tout à fait, c'est aussi voir les fautes que les gens peuvent soumettre, c'est-à-dire faire les fautes dans la vie ou même les crimes, d'être la personne qui fait des crimes. Mais ça n'empêche pas que même des criminels étaient, il y a une fois, des enfants et qui avaient différents regards sur la vie et qui rêvaient. Et même Déborah qui devient une femme, et on voit déjà dès le début qu'elle rêve d'une carrière, d'être une actrice. Moi, je vois pas seulement l'ambition là-dedans. Ce que je vois, c'est le rêve. Il y a une violence sur les femmes, il y a beaucoup de choses qui est dégoûtant, bien évidemment, comme dans la vie. et surtout aux États-Unis où c'était très riche comme pays et droits de l'homme n'étaient pas encore au niveau à se développer, qui était en train de se développer, mais qui était seulement sur le chemin. Donc on parle de mafia, bien évidemment, il y a beaucoup de choses sales et beaucoup de choses sombres qu'on n'a pas envie de voir. Mais ça n'empêche pas que l'enfance, l'adolescence et nos rêves de voir le monde et d'aimer infiniment, ça reste.
Temperatura.
Dzisiejsze 11, wczorajsze 14,2, przedwczorajsze 12,5. Od 8 dni trwa moc. I co?
No, widzisz to? Wynika z tego, że może się ślizgać facet, który jest 3 razy cięższy od ciebie.
Naprawdę?
Vous avez fait preuve d'une grande honnêteté, Katia Bougnatichvili, car vous avez choisi de parler de votre série de films et de votre réalisateur préféré, tout en avouant qu'il fallait absolument l'éviter si l'on cherchait à fuir la mélancolie. Là, on vient d'entendre un extrait du premier film de la série de 1988, Le Décalogue, du réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski. Le père et son fils calculent l'épaisseur de la glace à l'ordinateur pour savoir si le fils pourra aller patiner. Le Décalogue, c'est les 10 commandements. Il y a 10 films d'une durée comprise entre 55 et 60 minutes. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ces films, Katia Bougnatichvili? Et à nouveau, vous n'avez pas peur d'embrasser la tristesse, finalement?
Oui. D'abord, je dirais que Kieślowski, c'est mon réalisateur préféré de tous les temps. Et particulièrement, ce décalogue. Je pense que c'est vraiment, si je devais choisir une chose dans le monde du cinéma, ça serait ça. Ce que j'aime dans ce décalogue de Kieślowski, c'est que c'est l'essence de l'être humain. Des êtres humains ensemble, parce que c'est important. Pas seulement dans la solitude en étant toute seule, mais c'est dans notre existence, des êtres humains. Quand on enlève la politique, parce que nous sommes tous très politisés, mais dès qu'on enlève la politique complètement, dès qu'on enlève même la religion, c'est-à-dire c'est en quoi on croit, tout ça on enlève, et ce qui reste de l'essence des êtres humains, ce qui est vraiment essentiel, ce qui nous fait peur, ce qui nous sommes, quelles sont nos aspirations, quels sont nos rêves, quels sont nos quotidiens, que nous avons peut-être des aspirations de rêve, mais on a aussi le quotidien, et c'est difficile de vivre avec le quotidien. Et les choses essentielles, l'amour, la jalousie, la haine, la peur, la perte, désespoir, il y a de tout. Quand on enlève la politique et quand on enlève les choses politisées, c'est juste les êtres humains, leur existence et leur essence. Et ça, je pense que sans aucun détail qui est en trop ou en moins, Kieślowski arrive à faire exister dans sa décalogue.
Cette vision humaniste que vous dépeignez, Katia Bougnatichvili, donne très envie en tout cas de voir cette série de films. Je vais enchaîner en vous disant que la première fois que je vous ai entendu parler et pas jouer, c'était dans un journal télévisé et c'était avec Charles Aznavour. Et vous avez choisi un de ses titres les plus connus pour l'émission. On en parle après l'avoir écouté.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tout quand il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Katia Bougnatichvili qui vient de nous faire entendre un titre de 1965 composé et chanté par Charles Aznavour et écrit par Jacques Plante, La Bohème, la chanson favorite du répertoire d'Aznavour, c'est ce qu'il racontait. Qu'est-ce que ça vous évoque cette chanson, Katia Bougnatichvili?
Ce qui est un être humain, c'est-à-dire c'est un artiste, un être humain qui a une capacité de rêver, qui a une capacité de voir la famine comme un jeu de jeunesse. Et ça donne l'espoir en général. Pourquoi remettre des mélancolies? Parce que ça donne l'espoir. Parce que quand on pense par exemple à la famine dans le monde entier, il y a des endroits, et partout je pense, mais il y a particulièrement des endroits où il y a un vrai problème de pauvreté grave. Ce qu'on voit avec la famine, c'est la déshumanisation des gens. C'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont pas le strict minimum et ils n'ont pas la capacité de voir ça comme juste le jeu. C'est leur vie, c'est tragique. Il y a une déshumanisation totale parce qu'il n'y a pas la place pour la culture, il n'y a pas la place pour le rêve. Et puis quand j'écoute une chanson comme ça, ça me donne de l'espoir. Et ça nous rappelle que les êtres humains, c'est... plus que juste le quotidien et plus que juste d'avoir les stricts minimums. C'est-à-dire on a une capacité avec notre cerveau, avec notre l'esprit d'aller loin. Et les gens comme Aznavour, ils nous apportent ce bonheur.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
1967, ma plus belle histoire d'amour de Barbara. Il est encore question d'amour, mais c'est une déclaration d'amour de Barbara à son public. Katia Bougnatichvili, pourquoi ce choix?
D'abord parce que j'aime beaucoup Barbara, je ne suis pas la seule, je pense, et j'aime ses textes, j'aime sa musique, et j'aime cette chanson particulièrement. Parce que quand j'écoutais, je ne savais pas que c'était pour le public. Ça pouvait être consacré à une personne seule. Et finalement, j'ai compris que, quand j'ai su que c'était pour le public, j'ai compris que, en fait, pour moi, le public, ce n'est pas masse des gens, ce n'est pas les gens qui doivent remplir la salle, qui sont là tous ensemble pour être là pour moi. C'est les individus séparément, chacun. Chaque individu compte. Et quand on chante pour son public, quand on joue pour son public, on ne joue pas pour la masse des gens, en tout cas moi. Mais c'est pour les personnes singulières, particulières et uniques, chaque individu. Et je pense que tous les gens qui sont sur scène n'ont pas cette capacité, mais Barbara, elle avait. Elle a une capacité de chanter pour les gens, en général. Mais elle capte chaque individu, elle pense que chaque individu compte. Et ça, c'est une grande générosité de l'âme qu'elle a et grande finesse et sensibilité envers les gens, je pense, Barbara, et j'aime particulièrement dans cette chanson.
J'aimerais beaucoup que vous vous présentiez aux élections présidentielles.
Pourquoi ?
Parce que c'est rare cette compassion et le fait de considérer chaque individu à chaque fois. Malgré la masse qu'on forme tous et qui nous lie tous, vous, on dirait que vous arrivez à penser à chacun d'entre eux, chacun des composantes. Et c'est vrai, c'est comme ça qu'il faudrait toujours penser aux autres.
Probablement vous pensez ainsi, c'est pour ça que ça vous a touché ce que je viens de dire.
Peut-être. Alors présentons-nous.
Toucher des choses que nous, ça nous touche. C'est-à-dire, on entend ce qu'il y a nous, je pense, souvent.
C'est vrai. Nous serons bientôt présidente, Katia Bouchatchvili, hélas, pour le peuple français. Merci beaucoup d'être venue dans cette émission.
Merci à vous, Eva. C'est un vrai plaisir.
Pour moi aussi. Votre dernier album s'intitule Labyrinthe. Il est sorti le 9 octobre dernier chez Sony Classical et on y croise Ennio Morricone, Vivaldi, Bach, Scarlatti, Philippe Glass ou encore Serge Gainsbourg. Vous serez normalement, s'il n'y a pas d'annulation, en concert le 21 janvier 2021 à la Fondation Louis Vuitton, le 3 et 4 février à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris dirigé par Jaap van Zweden, le 8 février à l'Opéra Berlioz de Montpellier, le 9 avril à la Philharmonie de Paris et le 23 juin, récital en duo avec votre sœur Gwanza Bouniatchvili à la Philharmonie de Paris. Signalons aussi que depuis le 21 juin dernier, vous êtes ambassadrice pour le projet Demos, visant à démocratiser la culture auprès des enfants dans les zones rurales insuffisamment dotées d'institutions culturelles. Chers auditeurs, programmation musicale, remèdes évoqués, même ceux qui manquent, sont sur le site de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme est aussi guillerette qu'un menton de retour sur son bon vieux visage. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10. Dans un instant, vous retrouverez On va déguster avec François-Régis Gaudry.